Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous raconte la vie d'hommes et de femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts. Mata Hari, aventurière et espionne légendaire, fut l'égérie de la belle époque. Cocotte et danseuse adulée, elle créa ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le striptease. Elle leva ainsi le tabou du nu. Son caractère fort et indépendant a souvent amené à la considérer comme la première femme moderne en ce début du XXe siècle puritain. Sa posture, décalée et scandaleuse pour l'époque, causera en partie sa perte. Sa réputation d'espionne a fait d'elle une légende qui inspira de nombreux auteurs et artistes. Margaretha Gertruda Zélé, née en 1876, est la fille d'un marchand de chapeaux de Leverden, aux Pays-Bas. Elle est une enfant fantasque et quelque peu capricieuse. Vivant dans l'opulence, son père ne sait rien lui refuser. Son teint basané, inhabituel aux Pays-Bas, fait qu'on la prend souvent pour une Eurasienne. Atout qu'elle sera parfaitement exploitée à l'avenir. À l'adolescence, son père fait faillite. Elle se trouve dans l'obligation de se construire une situation. Elle étudie à l'école normale de Leyden, mais elle est renvoyée pour avoir, dit-on, charmé le directeur. Cependant, la réalité pourrait être plus sordide. Zélé rêve de voyage et d'exotisme. Bien décidée à quitter les Pays-Bas, où elle s'ennuie ferme, elle tombe un jour sur une annonce matrimoniale. Un certain capitaine MacLeod est à la recherche d'une compagne qui accepterait de partager sa vie aux Indes néerlandaises. C'est sa chance, pense-t-elle. Zélé épouse le capitaine de 19 ans son aîné et part aux Indes. Cependant, ses rêves s'effondrent rapidement. Son mari est violent et porté sur l'alcool. Elle donne naissance à 2 enfants, une fille et un garçon, qui meurt prématurément des suites d'une intoxication. Le couple finit par rentrer en Europe en 1903, mais la vie est insupportable pour Zélé, qui demande le divorce. Son mari la sépare de sa fille et la prive de tout subside. Pendant son séjour en Orient, elle a appris les danses indiennes. Grande, brune, élancée, ses charmes ne laissent pas les âmes indifférents et son teint basané la fait facilement passer pour une orientale. Le goût pour l'exotisme traverse une grande partie du XIXe et se prolonge jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il influence tous les domaines de la création, art figuratif, décoratif, littérature, musique et art du spectacle. Aussi, lorsque Zélé se rend à Paris et commence à se produire comme écuyère puis danseuse, elle ne tarde pas à attirer l'attention. En 1889, l'industriel et collectionneur lyonnais Émile Guimet ouvre un musée à Paris, entièrement consacré à ses collections orientales. Lorsqu'il rencontre Lady Zélé MacLeod en 1905, lors d'une soirée au cours de laquelle elle se produit en tant que danseuse exotique, il tombe sous le charme et l'invite à se produire dans son musée. Un nom de scène plus approprié s'impose. Zélé se crée alors un personnage de toutes pièces et elle se présente bientôt sous les apparences d'une princesse javanaise dénommée Mata Hari, ce qui signifie « soleil du jour » en malais. Le 13 mars 1905, Mata Hari donne une représentation au musée Guimet devant un comité d'artistes et de diplomates, dont les ambassadeurs japonais et allemands. Émile Guimet introduit le spectacle par une conférence sur les danses védiques et présente son égérie comme une danseuse sacrée de Java. Entourée d'une troupe de danseuses orientales, Mata Hari retire un à un ses voiles à la grande stupeur du public. Elle ondule sous les voiles qui la dérobent et la révèlent à la fois. Et cela ne ressemble à rien de ce que nous avons vu. Les seins se soulèvent avec langueur, les yeux se noient, les mains se tendent et retombent comme moites de soleil et d'ardeur, écrit un journaliste. La salle exulte, c'est un triomphe. L'écrivain Colette écrit « Elle ne dansait guère, mais elle savait se dévêtir progressivement et mouvoir un long corps bistre, mince et fier. » C'est le début d'une brillante carrière internationale, couronnée en 1906 par son apparition dans Le Roi de Lahore de Jules Massenet à Monte-Carlo. Admirée par le compositeur Puccini ou des comédiennes comme Réjeanne, elle a cependant du mal à être reconnue dans le monde de la danse. Diaghilev, directeur des ballets russes, refuse de l'engager. Cela ne l'empêche pas de se produire dans toutes les capitales européennes et même de se rendre jusqu'au Caire. Dès lors, elle collectionne les aventures et les protecteurs haut placés. Les paparazzi de l'époque comptent ses chapeaux, ses chiens, ses fourrures, ses bijoux et ses amants. Le tout Paris se laisse prendre au jeu de cette femme séduisante, malgré ses histoires pleines d'imagination et souvent contradictoires. Devant les journalistes, elle se transforme en comédienne, n'hésitant pas à présenter sa mère comme une princesse indienne. « Je suis née à Java, » dit-elle, « au milieu de la végétation tropicale, et depuis ma plus petite enfance, des prêtres m'ont initiée à la signification profonde de ces danses qui constituent un véritable culte, » explique-t-elle. Cependant, le succès est de courte durée. Dès 1907, d'autres danseuses de charme l'imitent, et parmi elles, Colette. Les ballets russes s'imposent peu à peu. Lorsque la guerre éclate en 1914, Mata Hari est à Berlin, où elle doit se produire en métropole. Elle parle plusieurs langues et son passeport néerlandais lui permet de voyager dans toute l'Europe. La guerre met un terme à sa carrière et ses moyens s'amenuisent rapidement. Elle cherche quelques soutiens auprès de ses relations. Le consul allemand à La Haye lui propose de régler ses dettes en échange de renseignements sur la France. Elle devient ainsi l'agent H21. En réalité, elle n'avait aucune conviction politique ou idéologique. Sa conviction, c'était de bien vivre, résume l'historien Frédéric Gueltan. Fin 1916, elle s'éprend d'un jeune officier russe, de 20 ans son cadet. Blessé, il est amené dans un hôpital à Vittel. Mata Hari a besoin d'un laissez-passer pour aller à son chevet et contacte le capitaine Ladoux, officier du contre-espionnage français. En échange de ses services, il lui propose d'espionner le Crown Prince, un de ses anciens amants. En réalité, il semble qu'elle n'ait apporté aucun renseignement à personne. Quand les Allemands finissent par se rendre compte qu'elle ne leur est d'aucune utilité et que les Français l'utilisent également, ils décident de se défaire d'elle en la livrant aux Français. Selon Frédéric Gueltan, spécialiste de la Première Guerre mondiale, les services allemands auraient délibérément envoyé des messages cryptés mentionnant l'agent H21 dans le but qu'il soit intercepté par le contre-espionnage français. Le piège fonctionne et le 13 février 1917, le capitaine Bouchardon se présente à la porte de sa chambre d'hôtel. Mata Hari l'accueille en tenue d'Ève à la sortie de son bain, et s'étant habillée, elle présente aux gardes des chocolats dans un casque allemand cadeau d'un de ses amants. À cet instant, elle ne comprend peut-être pas vraiment la gravité de sa situation et pense que ses nombreux amants viendront à son secours. Elle est pourtant accusée d'espionnage et de complicité d'intelligence avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises, ce qui peut lui valoir la mort. Le procès à huis clos commence le 24 juillet 1917. La cour est présidée entre autres par le lieutenant Mornay qui déclarera plusieurs années plus tard qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Cette remarque est confirmée par Léon Schirman qui étudiera les archives britanniques et en viendra à la conclusion qu'elle n'avait effectivement pas livré d'informations capitales aux Allemands. Cependant, Bouchardon est persuadé de sa culpabilité. Féline, souple, artificieuse, sans scrupules, sans pitié, elle était une espionne née, écrit-il dans ses mémoires. Tout est mis sur le même plan, sa vie mondaine jugée immorale, son cosmopolitisme suspect et ses activités de renseignement. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes en 1917. La guerre n'en finit pas et l'opinion publique réclame des coupables pour les morts, les mutineries et autres maux de guerre. On parle sans arrêt de complots ennemis, attisant la traque aux collaborateurs de tous bords. Marguerite Francillard est fusillée pour espionnage en janvier, suivie par Mademoiselle Dufay en mars. L'affaire Mata Hari, personnage au comportement connu du grand public et jugé ambigu, est une occasion de plus pour renforcer la cohésion nationale. Elle est jugée coupable d'intelligence avec l'ennemi et condamnée à être fusillée. Sa disparition réaffirmait l'autorité d'un pays rendu exsangue par une guerre meurtrière dont l'inutilité commençait à poindre, écrit M. Loubier. Le 15 octobre 1917, à 6h15 du matin, Mata Hari refuse qu'on lui bande les yeux et adresse des baisers à l'assistance et à ses bourreaux. Son courage face au peloton d'exécution contribue à faire d'elle une figure légendaire. Elle a su conjuguer exotisme, érotisme, sensualité, féminité et indépendance. Elle a inventé un type de chorégraphie appréciée dans les cabarets. Et de nombreuses copies de ses spectacles existaient déjà de son vivant, ce qui la rendait furieuse. Greta Garbo, Marlène Dietrich, Jeanne Moreau, Sylvia Christel et Marouchka Detmers lui ont prêté leur personnalité à la scène, à l'écran ou à la télévision. Pendant quelques années, elle aura été une véritable star, marquant durablement les esprits, et sa fin tragique acheva d'en faire une légende. 100 ans après sa mort, son nom résonne toujours dans notre mémoire collective et continue d'inspirer des auteurs comme Paolo Coelho ou des artistes comme Sabine Mittelhammer qui l'incarne dans un seul en scène début 2018.
C'était Muses et Mécènes, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District.